pleut dehors, il pleut, et c'est tant mieux. Car s'il pleuvait dedans, je ne serais pas content. Il pleut dehors, il pleut, et c'est tant pis. Les dames et les messieurs sont sous les parapluies. Il pleut dehors, il pleut, et c'est tant mieux. Je n'aurai pas besoin d'arroser mon jardin. Il pleut dehors, il pleut, et c'est tant pis. Le facteur est grincheux, sa bicyclette aussi. Il pleut dehors, il pleut, et c'est tant mieux. Ceux qui dansent en rond, ce sont les petits poissons. Il pleut dehors, il pleut, et c'est tant pis. Les jeunes et les vieux se mettent à l'abri. Il pleut dehors, il pleut, et c'est tant mieux. On est si bien dedans quand il fait mauvais temps. Il pleut dehors, il pleut, et c'est tant pis. Dès que ça ira mieux, je sortirai d'ici. Il pleut dehors, il pleut, et c'est tant mieux. La rivière se remplit, les robinets aussi. Il pleut dehors, il pleut, et c'est tant pis. Les chats sont malheureux, oui, mais les souris rient. Il pleut dehors, il pleut, et c'est tant mieux. Les nuages se vident, les trottoirs aussi. Il pleut dehors, il pleut, si le soleil se montre un petit peu, j'aurai mon arc-en-ciel.
Eh bien, nous vous l'avions promis. Maintenant que vous êtes bien installés, nous allons donc vous parler de la détection de la pollution chimique dans l'eau. C'est notamment Grigory Lemkin que nous accueillons et qui vous en parlera. Il est directeur général du labo Watch Frog. Et puis ils ont développé une technique... que je vais trouver particulière, mais vous, ça vous paraît peut-être tellement évident, Grégory, bien entendu, de détection de la pollution dans l'eau par la détection animale vivante, on va dire. Je vous laisse présenter en quelques mots l'objet du travail du laboratoire et puis nous expliquer aussi quelle est cette technique qui m'a laissé sans voix, on peut le dire. Grégory Lemkin.
Bien, et ben tout d'abord, je vais remercier l'agglomération d'Évreux-Port de Normandie de m'inviter à vous présenter le travail que nous faisons ensemble. En effet, notre laboratoire, le laboratoire Watch Frog, existe depuis une quinzaine d'années et est exclusivement dédié à l'évaluation des effets des produits chimiques, des substances chimiques, des polluants chimiques sur notre santé, sur la santé des écosystèmes, sur notre physiologie. Nous faisons ça notamment en évaluant l'impact endocrinien que peuvent avoir ces substances chimiques sur notre organisme, les fameux perturbateurs endocriniens, qui ne sont pas une nouvelle classe de polluants, mais qui sont une compréhension que l'impact des polluants chimiques sur notre santé passe par notre système hormonal. C'est pourquoi, depuis très longtemps, au Muséum d'Histoire Naturelle, dont nous sommes issus, nous avons développé des outils pour mesurer l'impact de ces polluants chimiques sur le vivant, sur les premières sentinelles de la qualité de l'eau que sont les amphibiens et les poissons. Ça paraît assez logique, tous les pêcheurs savent ça, et ce sont souvent les premiers lanceurs d'alerte lorsqu'il y a une pollution chimique dans l'eau. Et on pourrait se poser la question de savoir, finalement, aujourd'hui, la qualité de l'eau, c'est quoi ? La qualité de l'eau, c'est un certain nombre de paramètres, de mesures physico-chimiques qui nous renseignent sur la présence de telle ou telle substance. Mais vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'en matière d'analyse chimique, on ne trouve que ce qu'on cherche. Or, je ne vous apprends rien non plus, nous sommes confrontés aujourd'hui, malheureusement, à des milliers de substances chimiques dans notre environnement, dans l'air, dans l'eau, dans les sols. Et finalement, on a assez peu d'idées sur l'impact que ces substances ont sur notre santé, sur la santé des écosystèmes, des poissons et des amphibiens. Donc c'est pour ça que, au jour d'aujourd'hui, même si l'eau est un métier au départ de chimiste, on essaie d'implanter ce qu'on appelle des outils biologiques, des bioessais, dans ces outils de mesure pour savoir si le cocktail de substances polluantes qui peuvent se trouver dans l'eau a un impact ou pas sur le vivant. Donc c'est pour ça que nous avons développé, à partir de notre connaissance sur les poissons, sur les amphibiens, des outils qui permettent de révéler cet impact. Néanmoins, vous aurez remarqué que les poissons, les amphibiens ne parlent pas exactement le même langage que nous. Et puis d'autre part, au Muséum d'Histoire Naturelle, je ne vous surprendrai pas, et chez Watch Frog c'est la même chose, on n'est pas très fan de l'expérimentation animale. On préfère utiliser des méthodes alternatives, comme on appelle ça. Et donc pour ça, on a développé des larves miniatures, qui font 2-3 mm, des alevins de poissons, des têtards d'amphibiens, qui au très jeune stade, au moment où l'œuf éclos, ne font que quelques millimètres. Et comme je vous le disais, simplement, même si c'est très pertinent, malgré tout, c'est tout petit et ça ne parle pas le même langage que nous. Donc pour traduire l'effet des polluants chimiques sur ces organismes, eh bien, on a utilisé la fluorescence. Ces larves deviennent plus ou moins fluorescentes en fonction de la pollution chimique qui se trouve dans l'eau. S'il y a des substances chimiques qui vont mimer l'action de nos hormones, les larves vont s'allumer en fluorescence comme celle-ci. S'il y a des substances chimiques qui empêchent notre système de fonctionner, eh bien, les larves vont s'éteindre. Et donc, cette mesure quantitative de la lumière fluorescente nous renseigne sur l'impact des polluants qui se trouvent dans l'eau sur notre santé et sur la santé des écosystèmes. Alors, peut-être vous me direz, mais comment est-ce qu'on rend ces larves fluorescentes ? Eh bien, tout simplement, on utilise des marqueurs génétiques. On ne cherche pas à modifier le génome des larves, mais simplement, on cherche à capter leurs réactions naturelles face aux polluants. Lorsque nous sommes exposés à des polluants, nous réagissons, les larves font la même chose, et nous réagissons en mobilisant notre système génétique. Notre système génétique est équipé, un petit peu comme les lignes de chemin de fer, de systèmes d'aiguillage, qu'on appelle des promoteurs, et qui conditionnent notre réaction naturelle. Lorsque les têtards ou les alevins réagissent naturellement aux polluants qui se trouvent dans l'eau, ils vont déclencher cette réaction naturelle. Au Muséum d'Histoire Naturelle et puis chez Watch Frog, nous avons copié-collé ce système d'aiguillage et nous l'avons associé avec un rapporteur fluorescent, ce qui permet de rendre les larves fluorescentes lorsqu'il y a des polluants dans l'eau. Et grâce à ça, on peut combiner sur des prélèvements d'eau qui ont été faits, je vous montrerai sur l'agglomération d'Évreux où ça se trouve, eh bien on peut sur ces prélèvements d'eau à la fois évaluer l'impact sur le vivant et en même temps, en parallèle, mener des analyses chimiques pour voir quelles sont les substances responsables de cet impact. Ainsi, on a pu prélever des échantillons à la fois dans les eaux usées, sur l'ouvrage d'assainissement, sur la centrale de traitement d'eau, en amont, en aval de la station d'épuration, et également dans le milieu récepteur, qui est la rivière, en amont et en aval du milieu récepteur, de manière à voir l'impact que l'ouvrage d'assainissement peut avoir sur cette rivière. Le but de cela, c'est évidemment de mesurer cet impact, de voir si l'ouvrage d'assainissement, qui, je le rappelle, n'est pas prévu pour traiter la pollution chimique, mais néanmoins, les bactéries qui s'y trouvent, qui digèrent notre matière organique, bien digèrent aussi une partie de la pollution chimique, même si ce n'est pas parfait, ça y contribue. Et donc, voir si c'est suffisant pour protéger le milieu récepteur de l'impact des polluants chimiques. Voilà. Et aussi, ça permettra, comme je vous l'ai dit, d'identifier les substances qui sont responsables de ces effets et peut-être d'avoir des actions correctives en amont, l'identification des polluants à la source pour pouvoir éradiquer ces sources de polluants. Alors, forcément, quand je vous dis qu'on fait des têtards fluo, je sais que la question qui vient tout de suite derrière, c'est montrez-les-nous. Donc, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Je vous ai amené quelques exemples. Et vous allez pouvoir les voir sur l'écran. On va leur mettre un peu de lumière. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez ces petites larves. Alors, en fonction de la hauteur d'eau, elles se mettent plus ou moins au point. Mais vous allez voir, quand elles vont s'arrêter un petit peu de tourner, eh bien, on va voir que, vous voyez ici, celle-ci s'allume très clairement en fluorescence. Et cette lumière, qui est exprimé dans cette espèce d'alvéole qu'on devine là. Elles sont un peu capricieuses, elles ne se mettent pas. Voilà, celle-ci, vous voyez ici, on voit très clairement, c'est son foie. Pourquoi son foie s'allume en fluorescence ? Parce que dans cet échantillon que j'ai pris artificiellement, eh bien, on a mis des polluants chimiques qui miment l'action des hormones. C'est la fameuse pilule contraceptive, l'éthylestradiol. Comme chez nous, comme chez l'humain, chez les alevins de poissons, l'œstrogène de synthèse, en l'occurrence, contrôle la fabrication des protéines des œufs. Les œstrogènes contrôlent la fabrication des œufs. Et chez ces alevins, on voit cette lumière fluorescente dans le foie qui témoigne du fait que ces œstrogènes sont en train de dire à cet alevin qui vient d'éclore, fabrique des œufs. Vous voyez un exemple de perturbation endocrinienne, c'est-à-dire qu'on est dans un moment totalement anachronique. Un embryon en développement est soumis à une pression d'un produit chimique totalement... Qui dérègle totalement son système physiologique. Voilà. Donc, grâce à cela, eh bien, on est en train de réaliser une cartographie avec l'agglomération d'Évreux pour voir, identifier où sont les problématiques et si l'ouvrage de traitement eh bien, suffit à les éradiquer.
Vous pouvez vous emparer de la parole afin si vous le souhaitez, ou aller un petit peu plus loin dans cette présentation. Moi, j'avais une toute première question. Est-ce que finalement, le fait qu'il soit lumineux, donc soumis à des pollutions chimiques, c'est quelque chose d'exceptionnel ou finalement, dans les réseaux de manière générale, maintenant que nous avons cet outil de détection, nous détectons qu'en fait, il y a des pollutions chimiques dont nous n'avions pas connaissance avant?
Ben, en réalité, je dirais qu'il faudrait être naïf pour ne pas imaginer que des milliers, des dizaines de milliers de produits chimiques arrivent dans les stations d'épuration d'origines diverses et variées, cosmétiques, médicamenteuses, phytosanitaires, biocides. Et évidemment, ces pollutions sont majeures. Donc, véritablement, même si au départ, l'ouvrage d'assainissement n'est pas prévu pour ça, il a un rôle salutaire en réalité pour empêcher que cette pollution chimique n'arrive intégralement dans le milieu récepteur qu'est la rivière. Malheureusement, on sait qu'au départ, ces ouvrages d'assainissement n'ont pas été conçus pour traiter cette pollution chimique. Aujourd'hui, il y a un véritable enjeu de santé publique et environnementale de savoir si on se contente de ces ouvrages d'assainissement ou si, comme certains pays le font, en Suisse notamment, a été votée une loi pour imposer progressivement que ces ouvrages d'assainissement soient améliorés de manière à traiter la pollution chimique.
Alors forcément, vous venez de nous présenter une carte sur laquelle vous avez représenté les lieux de prélèvement et notamment sur notre agglomération en amont, en aval de la station d'épuration, enfin de nettoyage et d'épuration. Globalement, sur une agglomération comme Évreux, sur l'agglomération d'Évreux, est-ce que nos têtards clignotaient ou nos têtards avaient une fluorescence ordinaire ? Comment ça s'est passé ? Et puis, y a-t-il eu des mesures d'écart?
Alors, on est au début du travail. On a fait une première série de prélèvements. Je dirais que même si la plupart des analyses sont en cours d'études et d'interprétation, on est dans une situation finalement assez classique et plutôt rassurante. C'est-à-dire qu'on a évidemment beaucoup de produits chimiques qui arrivent à la station d'épuration, que cette station d'épuration est plutôt efficace pour abattre cette pollution chimique et qu'elle le fait relativement bien, pas parfaitement, mais qu'elle le fait suffisamment bien pour protéger le milieu récepteur. Voilà, en très, très brièvement résumé, les premiers résultats qui restent à confirmer de ces études, qui, je dois le dire, ont été financés également par l'agence au Seine-Normandie, qui nous aide beaucoup sur ce travail, à la fois d'interpréter les résultats des mesures biologiques, mais également de les coupler avec les mesures d'analyse chimique qui permettent d'identifier les polluants responsables des effets.
N'hésitez pas à vous signaler si vous voulez prendre la parole. C'est avec grand plaisir que nous vous passerons le micro pour interagir avec Grégory Lemkin. J'avais une autre question, peut-être naïve. Moi, je découvre aujourd'hui cette méthode, cette technique d'analyse des polluants chimiques. Est-ce que cette technique est utilisée depuis longtemps? En fait, depuis quand, plus précisément, depuis quand utilisons-nous cette technique? Et est-ce que finalement c'est pas l'écart entre deux mesures à deux moments dans le temps qui finalement façonne le travail à opérer?
Oui, c'est vrai, même si dans le domaine de l'eau aujourd'hui, les bioessais ne font pas partie des obligations réglementaires, les bioessais font partie des obligations réglementaires dans le domaine des autorisations de mise sur le marché des produits chimiques. Aujourd'hui, la réglementation européenne impose que pour mettre un produit phytosanitaire ou un biocide sur le marché, son activité endocrinienne doit être évaluée. Et nos tests font partie, je dois le dire avec un peu de fierté, des fourches codines qui ont été validées au niveau international par l'OCDE, par les agences des produits chimiques, comme étant les tests de référence pour autoriser ou refuser la mise sur le marché d'une substance qui serait perturbatrice endocrinienne. Maintenant, au-delà de ça, c'est vrai que votre question sur les moments de mesure est très intéressante. Et c'est vrai que, contrairement à l'évaluation des produits chimiques qui est statique, guillemets, la qualité de l'eau, c'est quelque chose de dynamique. C'est un flux. Et de ce point de vue-là, nous avons développé depuis quelques années un outil qui permet d'amener le prélèvement. Ça marche plus. Si, voilà. Qui permet d'amener le prélèvement d'eau en continu au tétard, qui s'appelle la Frogbox, qui permet de mesurer cette activité des polluants chimiques sur la santé en continu par une mesure de fluorescence.
Alors, vous l'évoquiez en début d'intervention, les stations aujourd'hui d'épuration, les stations de nettoyage de l'eau n'ont pas été conçues pour éliminer cette pollution chimique. Malgré tout, les bactéries en atténuent quand même la charge en sortie. Clairement, quels sont les éléments qui les atténuent, en fait, ces pollutions chimiques? Existe-t-il des méthodes qui pourraient, brosser le large spectre de tout ce qui pourrait être en pollution chimique? Ou au contraire, est-ce que à chaque pollution, sa méthode de dépollution?
Oui, en tant que thermomètre, c'est-à-dire que vraiment nous sommes un laboratoire qui mesure, qui diagnostique, je me dois d'être impartial. Il est vrai qu'aujourd'hui, on sait faire de l'eau pure avec la plus immonde boue. Il n'y a aucun problème à faire ça. Toutes les technologies existent pour épurer l'eau. Après, tout est une question de coût et il faut ajuster ce coût en fonction de l'enjeu sanitaire et de l'enjeu environnemental. D'où l'importance de la mesure qui va permettre d'ajuster ce coût. Je vous ai cité le fait que les Suisses allaient un peu plus loin que nous, peut-être ont-ils raison, peut-être exagèrent-ils, c'est pas à moi de le dire, mais la question se pose, c'est vrai. Mais en tout cas, les technologies existent, le charbon actif, l'ozone et les outils de filtration, tout existe pour pouvoir éliminer cette pollution chimique. Maintenant, évidemment, ça a un coût.
Une fois de plus, si quelqu'un veut s'emparer de la parole, n'hésitez surtout pas. Parce que moi, j'ai des questions, de toute façon. Moi, je voulais revenir sur... là, vous travaillez avec des alevins et des têtards. Pourquoi des alevins et des têtards? Est-ce que ce sont des espèces qui sont plus favorables à la détection? C'est plus facile à manipuler? Ça pose moins de problèmes d'éthique? Sur quel point se sont portés vos choix de travailler avec des alevins et des têtards? Et pourquoi les deux?
Alors, pour des raisons réglementaires, parce qu'il se trouve que la perturbation de nos hormones sexuelles, c'est un sujet qui est abordé d'un point de vue réglementaire sur les poissons, et la perturbation de ce qu'on appelle les hormones thyroïdiennes, l'ordinateur s'éteint un petit peu, voilà, la perturbation des hormones thyroïdiennes, ça s'évalue chez l'amphibien. Pourquoi ce choix des poissons et des amphibiens? Parce que figurez-vous, ça va peut-être vous paraître incroyable, j'y sais, mais les hormones de ces alevins sont exactement les mêmes que les vôtres. La nature ne réinvente pas un système hormonal à chaque espèce. Ce sont les mêmes hormones thyroïdiennes qui permettent à un têtard de se métamorphoser en grenouille, qui permettent à un bébé humain de développer son cerveau. Ce sont les mêmes œstrogènes qui contrôlent la fabrication des œufs chez l'homme, chez la femme en l'occurrence, et chez le poisson. Ce sont les mêmes hormones masculines qui fabriquent les spermatozoïdes d'un poisson et d'un être humain, d'un adulte. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est très conservé en termes de mécanisme et qui permet une évaluation du danger assez précise. Maintenant, face à cela, c'est vrai que utiliser des milliers, voire des millions de poissons et d'amphibiens pour évaluer des échantillons, des produits chimiques, comme je vous l'ai dit, ça nous posait un problème. Le fait de faire le choix des embryons est très précis à la fois d'un point de vue éthique et d'un point de vue réglementaire. Figurez-vous qu'il y a un stade très précis qui est défini, c'est-à-dire le moment où cette larve est capable de devenir autonome pour se nourrir, eh bien, ça devient un animal de laboratoire. Ce qui était plus important pour nous, c'était surtout que quand une grenouille pond, elle pond entre 500 et 4000 œufs, et que pour nous, ça fait 500 à 4000 tests qui sont pertinents pour évaluer l'impact des produits chimiques sur l'environnement. Voilà, d'où ce choix.
Une fois de plus, hein, si vous voulez vous emparer de la parole, n'hésitez pas. De manière peut-être plus anecdotique, mais je me posais la question, une fois que les alevins ont fait le boulot et que les têtards ont fait le boulot, est-ce que vous nous les relâchez dans nos mares afin d'avoir des grenouilles fluorescentes ?
Surtout pas, bien sûr, parce que ce sont des tests de laboratoire, c'est un objet de laboratoire. Et bien évidemment, il n'est pas question de mettre ça dans la nature. Tout ça est d'ordinaire en milieu extrêmement confiné. Et là, exceptionnellement, pour le jeu de la démonstration, j'en ai amené quelques-uns. Mais voilà, en réalité, non, on est véritablement sur un test de laboratoire qui, après usage, est éliminé comme un matériel biologique. Alors, ça fait des précautions énormes pour ce qui ressemble plus ou moins à un embryon de poulet sur un jaune d'œuf. Mais en réalité, voilà, la réglementation est très précise sur ce sujet-là.
Je prenais 2 minutes pour les observer parce que c'est toujours étonnant de les voir aussi près. Est-ce que sur la fluorescence, en fonction, vous parliez tout à l'heure du foie qui était en fluorescence importante avec notamment un perturbateur hormonal. Donc voilà, le foie est évident. Est-ce qu'il y a d'autres organes de ces têtards, de ces alevins qui peuvent nous donner d'autres indications toujours dans cet esprit de fluorescence?
Oui, comme je vous le disais, les hormones sont très conservées entre les espèces aquatiques et nous. Donc je vous ai cité le foie parce que c'est là que se joue la fabrication des œufs chez un poisson. Mais si j'avais pris des têtards, on verrait le cerveau s'allumer sous la perturbation thyroïdienne, puisque en l'occurrence, c'est dans le cerveau que le signal thyroïdien va conditionner l'induction de la métamorphose. De la même façon, figurez-vous, on a aussi un modèle d'alevin pour les androgènes, pour les hormones masculines, car il y a un petit poisson qui s'appelle l'épinoche à 3 branches, qui a cette particularité de fabriquer une espèce de glu qui lui permet d'agglomérer des branchages dans l'eau pour construire un nid. Et c'est le mâle qui va prendre soin des œufs que la femelle a pondus dans le nid. En général, ça plaît beaucoup, ça. Et écoutez, cette glu, elle est fabriquée dans les reins. Donc là, à ce moment-là, ce sont les reins qui s'allument. Donc chaque organe, évidemment, a son rôle, sa fonction, contrôlée par les hormones. Et donc, c'est véritablement quelque chose de très spécifique que nous regardons d'un point de vue physiologique qui traduit véritablement l'effet que le polluant chimique va avoir sur l'organisme.
Si vous voulez prendre la parole une fois plus, n'hésitez pas. C'est pas grave, moi j'ai encore une question, vous allez voir. Vous nous parliez tout à l'heure des prélèvements que vous aviez faits sur l'agglomération hébroïcienne, les tests qui ont été réalisés notamment avec les alevins et les têtards. Est-ce que ce type de test est adapté à tout type d'analyse? Est-ce que toute commune, collectivité ou exploitation ou que sais-je encore, enfin tous les lieux qui souhaiteraient analyser l'eau sur les polluants chimiques, est-ce que c'est adapté à tout type de situation ou y aurait-il des cas sur lequel technique, cette méthode ne serait pas appropriée ?
Écoutez, on travaille pour beaucoup d'agglomérations en France. Et en Europe, on a travaillé pour Bruxelles très longtemps, on travaille pour l'assainissement de la région parisienne, on travaille également pour Orléans, pour Chartres. Et puis également, on travaille avec des objets qu'on nous demande de tester un peu particuliers. On nous demande de tester des ingrédients cosmétiques, des crèmes cosmétiques, des shampoings, des dispositifs médicaux, des jouets. On nous demande également de tester des couches culottes. Tous ces matériaux qui peuvent relarguer aussi des produits chimiques. Alors, comment on fait ça sur un tétard? Simplement, on fait ce qu'on appelle un essai de migration. Donc, ça veut dire qu'on va mettre au contact une solution et c'est cette solution qui va recueillir la pollution chimique qui peut être émise par ces matériaux. C'est cette solution qu'on va tester sur les tétards et voir s'il s'allume en fonction de ce qui se trouve dans cette solution. Donc aujourd'hui, vraiment, l'évaluation est sur tout domaine et avec des situations extrêmement différentes.
Si quelqu'un souhaite s'emparer la parole, je répète, hein, parce que vous avez sûrement des questions bien plus pertinentes que les miennes. Mais c'est toujours difficile de prendre la première prise de parole. Moi, je reste quand même subjugué là par cette. On aurait presque l'impression qu'on aurait travaillé avec de l'image de synthèse ou un truc comme ça, en plus de nous apporter des informations sur les polluants. Je trouve ça plutôt sympa, plutôt joli, quoi. C'est voilà. La fluorescence, ça veut dire que vous l'évoquiez tout à l'heure sur une projection là. Quoi qu'il arrive, la fluorescence n'est pas l'indicateur. L'indicateur est la plus de fluorescence ou la moins de fluorescence. On tombe dans de la perturbation, quoi qu'il arrive, d'un côté ou de l'autre, où il y a quand même des choses plus inquiétantes que d'autres quand ça s'éteint ou quand ça s'allume.
La réalité des choses, c'est que nous sommes entourés dans notre vie quotidienne de modulateurs endocriniens. Notre système hormonal peut plus ou moins réagir. Là, par exemple, le fait de tenir un micro et d'être face à vous crée un petit peu de stress. Je transpire un petit peu, ma température s'élève et mes hormones corticotropes vont m'aider à lutter face à ça. Néanmoins, j'espère que vous n'êtes pas des perturbateurs endocriniens. Pas tomber malade. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une variation endocrinienne n'est pas synonyme nécessairement de perturbation endocrinienne. Néanmoins, c'est une question un peu délicate parce qu'en réalité, le législateur européen a considéré qu'à partir du moment où il y avait une perturbation hormonale, eh bien, on pouvait à ce moment-là être classé perturbateur endocrinien. Ce que je veux dire, c'est que pour les perturbateurs endocriniens, contrairement aux autres types de polluants, entre guillemets, même si ce sont les mêmes, dans cette catégorie, il n'y a pas de seuil. Donc, à partir du moment où j'ai un effet néfaste hormonal, j'ai un perturbateur endocrinien. Mais néanmoins, on voit bien que toutes les substances ne sont pas équivalentes. Il y a des substances qui sont très perturbatrices et d'autres qui le sont beaucoup moins.
Est-ce que finalement, toutes les perturbations sont néfastes?
Alors, si on emploie le mot perturbation, oui, par essence, elles sont néfastes. Mais effectivement, dans notre alimentation, on trouve des substances endocriniennes, je pense aux phytoestrogènes dans le soja, qui vont pas nécessairement nous rendre malades, mais qui vont moduler notre système hormonal, peut-être pour notre bien, peut-être pour notre équilibre. Dans le lait, il y a également des substances endocriniennes. Donc, et c'est pas pour ça qu'on va parler de perturbation endocrinienne. Donc, c'est le mot perturbateur qui incrimine, entre guillemets, une substance néfaste, mais il peut y avoir des modulateurs endocriniens dans notre environnement, dans notre eau. Et c'est vrai que le cocktail qui peut se trouver dans l'eau est quelque chose qui est plus délicat à évaluer. Mais en tout cas, les tétards, eux, ils sont sensibles.
Merci beaucoup, Grégory Lemkin. Si quelqu'un veut poser une question, c'est maintenant. Ou alors après, bah, vous débrouillez pour aller rencontrer directement Grégory, qui, pour être passé avant vous, prend plaisir à expliquer toutes ces subtilités de la détection de la pollution chimique, notamment avec les alevins et les tétards.
Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam.
dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges mortes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent pleins de pierres et de drames aux premières lueurs. Mais dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des longueurs océanes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches, des poissons ruisselants. Ils vous montrent des dents à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites que leurs grosses mains invitent à revenir en pluie. Puis se lèvent en riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en rotant. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent en se frottant la panse sur la panse des femmes. Ils tournent et ils dansent comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accordéon France. Ils se tordent le cou pour mieux s'entendre rire jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire. Alors le geste grave, alors le regard fier, ils ramènent leur batave jusqu'en pleine lumière. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui boivent, et qui boivent et reboivent, et qui reboivent encore. Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, d'Hambourg ou d'ailleurs. Enfin, ils boivent aux dames qui leur donnent leur joli corps, qui leur donnent leur vertu pour une pièce en or. Et quand ils ont bien bu, se plantent le nez au ciel, se mouchent dans les étoiles, et ils pissent comme je pleure sur les femmes infidèles. Dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam.
Nous sommes toujours sur le salon de l'eau et de l'énergie, et nous allons, avec les intervenants autour de la table, nous poser la question des métiers de l'eau, de l'envie des métiers de l'eau, et puis aussi, que sont ces métiers de l'eau. Autour de la table, nous avons Carole Salan. Allez-y, corrigez-moi, je vous en prie.
Carole Salim.
Salim, très bien. De ICO, c'est un bureau d'études, et vous l'aurez compris dans le nom, eh ben, ça parle de l'eau, hein, bien entendu, dans ce cabinet d'études. Nous avons également Étienne Leroux, qui travaille dans les travaux publics, mais plus précisément sur les réseaux d'assainissement et de distribution d'eau potable. Nous avons, sur la partie formation, nous avons avec nous Alphonse Rassolo-Niena.
C'est bien ça.
C'est voilà. Et vous êtes enseignant en BTS. Alors vous m'avez dit Géno, c'est maîtrise de l'eau. Globalement, gestion. C'est autour de la gestion et de la maîtrise de l'eau. Ouais. Et nous avons avec nous également Claire Martins, qui est apprentie justement en BTS, dans ce même BTS autour de la gestion et la maîtrise de l'eau. Nous échangeions juste avant d'arriver sur le plateau là autour de cette thématique, et finalement on arrivait à la conclusion quand même que les métiers de l'eau finalement, on ne les connaissait pas forcément. Il y avait l'ingénieur qui brillait par son, par en tout cas la représentation qu'on en a, l'ingénieur en eau. Et puis finalement, on voyait bien la partie distribution et compagnie. Mais finalement, les métiers de l'eau n'étaient pas si évidents que ça pour le grand public, et en particulier chez les étudiants qui doivent au moment choisir une orientation. Carole Salmi, je vais peut-être m'adresser à vous pour commencer, parce que vous, c'est une de vos préoccupations. Comment intéresser les étudiants au métier de l'eau?
Mais on se rend compte que nous avons tous des difficultés à recruter, non pas parce que nos offres ne sont pas pertinentes ni intéressantes, mais tout simplement parce qu'il n'y a personne en face. Donc comment faire en sorte qu'il y ait du monde, c'est-à-dire nous rapprocher des CFA en ce qui concerne les techniciens, mais aussi se rapprocher des jeunes en fin de troisième ou en première, lorsque les choix d'orientation se feront, pour aller leur présenter nos métiers de l'eau. que ce soit les métiers de l'ingénierie, mais aussi les métiers liés au secteur des travaux, des délégataires. Il y a une multiplicité de possibilités, que ce soit avec un bac plus 2 ou avec un diplôme d'ingénieur, avec à l'intérieur tout ce qui est par exemple soudeur. Les entreprises de travaux en ont également besoin. Nous avons besoin, nous, au bureau d'études, d'ingénieurs, mais nous avons aussi la nécessité d'avoir des techniciens, car c'est eux qui vont être les premiers acteurs, c'est-à-dire aller sur le terrain pour collecter les données et les transformer en plans qui seront par la suite utilisés par les ingénieurs pour monter les programmes.
Alors justement, vous, Claire Martins, vous êtes apprentie en BTS Gémeaux, donc gestion et maîtrise de l'eau. Comment on arrive au bout d'un moment à se dire les métiers de l'eau, c'est vers cette direction que j'ai envie d'aller. Et du coup, pour faire quoi précisément? Et vous en particulier, Claire, pour faire quoi?
Tout d'abord, on se dirige vers les métiers de l'eau lorsqu'on a envie de faire de l'environnement. Et moi, il y a c'était tout simplement parce que avec l'envie de ne plus avoir un stress pour trouver un poste et pour travailler dans un développement d'une ressource durable, j'ai fait des recherches sur le cycle de l'eau et j'ai appris après les différents corps de métiers qu'il pouvait y avoir. Et le technicien, suite à mon BTS, je deviendrai technicienne et ce technicien fait autant de terrain que de bureau. Il travaille autant dans la collecte de données que dans cette analyse. Et nous sommes le premier acteur dans l'intellect et non dans l'exploitation à se rendre compte de la réalité des réseaux et de notre manière de gérer les eaux, autant bien l'eau potable que les eaux usées. Comment on arrive dans ces... Dans ce domaine, je dirais, moi, pour ma part, ça serait d'abord une question écologique, une question de responsabilité citoyenne.
J'imagine, quand on rentre en BTS, on a une vingtaine d'années, et là, pour le coup, je m'adresse peut-être plus aux professeurs autour de la table. On a une vingtaine d'années, généralement, quand on rentre en BTS, hein, je ne dis pas de bêtises, hein, dans ces eaux-là, en tout cas.
Oui, exactement.
Tout dépend du nombre de redoublements qu'on aura eu dans son parcours scolaire. Avec des idées neuves, nouvelles, par rapport à ce qui se fait. Et là, on entend Claire qui témoigne, de cette appétence environnementale pour entrer dans les métiers de l'eau. Est-ce que ça fait partie des motivations des élèves de manière générale et également de ce qui est traité en termes d'apprentissage?
Oui, absolument, oui. Justement, on leur inculque cette partie environnement et puis gestion de l'eau, hein, et la maîtrise de l'eau aussi, dès le départ, pour les intéresser et puis les accrocher pour la suite de la formation qui dure 2 ans.
Vous, en tant qu'enseignant, alors au lycée de Chambray à Gouville, oui. À 3 pas d'ici, pour ainsi dire, mm-hmm. À quel métier vous préparez finalement à travers ce BTS? Claire nous parlait de prélèvement, de recherche, d'analyse, mais alors du coup, on arrive sur quoi comme type de métier à travers un BTS autour de la gestion et la maîtrise de l'eau?
Alors, les métiers qu'on peut faire après le BTS chez Mo sont diverses et variées. Plus globalement, si je dois faire un petit résumé, ce serait du travail sur tout le cycle de l'eau, c'est-à-dire à partir de la ressource, en passant par la distribution de cette eau, le traitement de cette eau pour la rendre potable, et puis le traitement de cette eau une fois utilisée, qui est usée, et les
pour la recycler.
Voilà. Et puis les compétences connexes, hein, les fameux bureaux d'études qui traitent toute la partie technique autour. Donc un élève en BTS AGMO peut tout à fait intégrer chacune de ces parties.
Étienne Leroux, vous travaillez dans les travaux publics, sur les réseaux d'assainissement et d'eau potable en particulier. Est-ce que du coup, on aborde ces questions, comment on aborde ces questions de l'eau, de la notion environnementale que nous évoquait Claire il y a quelques instants? Comment est-ce qu'on l'aborde dans les travaux publics, finalement? J'imagine qu'on n'aborde pas pareil de l'installation de conduite de gaz, comme on aborde le réseau de distribution de l'eau. Ou peut-être que je me trompe, d'ailleurs, ça s'aborde peut-être pareil. Là, je m'avance peut-être beaucoup. Hein.
Non, effectivement, il y a une certaine similitude au niveau du terrassement, on va dire, de terrassement, de l'ouverture des tranchées. Après, la particularité de l'eau, et en tout cas surtout de l'eau potable, c'est comment mettre en service un réseau qui soit sain, qui soit désinfecté, propre. Et c'est un sujet, effectivement, il y a eu des problématiques récemment sur certains secteurs à ce niveau-là. Et on travaille vraiment beaucoup là-dessus, sur comment, au cours de la construction du réseau, comment faire en sorte que l'intérieur de la canalisation, là où va circuler l'eau potable, ça reste propre. Et aussi faire attention, quand on désinfecte la canalisation, de ne pas rejeter des eaux malsaine pour l'environnement dans le milieu naturel. Et c'est principalement par ces vecteurs-là que l'environnement intervient dans mon métier.
Est-ce qu'il y a des formations très spécifiques parce qu'on aurait la sensation peut-être que dans les travaux publics, l'essentiel c'est le maniement de l'outillage, et finalement, est-ce qu'à travers la particularité des réseaux d'eau et d'eau potable en particulier, il y a des formations essentielles, complémentaires, ou des niveaux de qualification, ou des niveaux de compétences différents?
Alors, oui, il en existe, mais en même temps, c'est aussi un métier qui permet... Comme moi, je n'ai pas forcément été formé au métier de l'eau, mais c'est un métier qu'on peut se former aussi sur le terrain en apprenant. Moi, je l'ai découvert par hasard au cours de mes stages durant mes études, et je m'y suis tourné parce que je trouvais ça intéressant, et c'est vrai que ça posait des problématiques qui m'intéressaient plus que dans les autres métiers auxquels j'étais initialement formé. Il y a effectivement des formations aussi bien au poste de canalisateur. Enfin, moi, je trouve que c'est un très beau métier, canalisateur. On a déjà au niveau CAP, où c'est eux qui montent les ouvrages des canalisations d'eau potable. Et donc ça, c'est très spécifique. Mais c'est un métier aussi qu'on peut apprendre sur le terrain. Voilà. Donc
En termes d'innovation technologique, parce que les Romains, ils faisaient déjà des viaducs, des canalisations et des choses comme ça.
Ils le faisaient très bien.
Et ils le faisaient très bien, d'ailleurs, ils ont été réputés pour ça, hein. De relever l'eau, enfin, oui, tous les grands défis qui sont autour de la science, d'ailleurs, hein, très clairement, relever le niveau et compagnie. Est-ce qu'on continue d'innover, justement, dans ce fameux acheminement de l'eau? Est-ce qu'on continue, ou finalement, on reste avec les bonnes vieilles méthodes de l'époque? Je ne pense pas non plus qu'on en soit resté aux ouvrages des Romains, mais est-ce qu'on continue d'avancer dans ces technologies pour en gagner en efficacité, en débit, ou tout simplement les concentrations de population ont aussi changé les besoins? Comment ça se passe, en fait, technologiquement parlant? Est-ce qu'on continue d'avancer? Là, je me retourne vers tout le monde. Hein. Là, ça concerne vraiment tout le monde. Ça concerne aussi bien vous, Étienne, qui êtes dans les réseaux d'eau potable. Ça concerne le professeur Alphonse. Ça concerne également Claire, qui est une jeune qui intervient professionnellement. Ça concerne aussi Carole sur les bureaux d'études. Comment on avance technologiquement et quels sont les nouveaux défis de l'eau?
La réglementation, les objectifs qui nous sont fixés par l'État. Donc les entreprises de travaux doivent s'y plier. Nous, on doit faire en sorte que nos dossiers d'appel d'offres incluent systématiquement cette nouvelle réglementation. Et nous devons également former nos équipes en interne, parce que lorsqu'une réglementation arrive, elle sort sous la forme d'un décret ou d'un texte juridique. Et après, il faut que tout le monde se l'approprie. Et puis que vous l'appliquiez.
Et concrètement, technologiquement, ou en termes, parce que vous abordez la question de la loi, notamment à travers les décrets qui donnent des obligations en termes de fonctionnement, mais c'est aussi des avancées technologiques ou des choses voilà, qu'on aborde différemment, même dans les matériaux, ou enfin, je ne sais pas, moi, je suis assez novice en la matière, mais j'imagine que les matériaux induisent des façons de travailler différentes, que les technologies peuvent induire aussi une autre façon d'aborder les choses. Est-ce qu'on a avancé? Est-ce qu'on avance, est-ce qu'on continue d'innover en la matière?
Oui, parce que on compare les matériaux qui acheminaient l'eau au début, que ce soit les conduites en fonte grise,
en bois,
oui, déjà à bien avant, mais vraiment le développement après-guerre des réseaux d'eau, ça a été en fonte grise, il y a eu de l'amiante ciment, il y a eu tout un tas de matériaux qui ont été utilisés aujourd'hui. Ça aboutit à des matériaux assez efficaces, que ce soit en matière plastique ou en fonte, toujours, mais de meilleure qualité, plus résistant, et on a une longévité aujourd'hui qui est bien supérieure à ce qu'on pouvait avoir. Et c'est aussi par la qualité de la pose, avec l'agence de l'eau qui a pu mettre en place certaines règles, certaines techniques de pose et les diffuser et faire en sorte qu'elles soient appliquées par toutes les entreprises qui sont intervenantes.
Alphonse Razzolognena, quand on est professeur sur des choses comme ça, qui ont l'air de changer quand même, du coup, les techniques changent, les réglementations changent, Carole Selmy était en train de nous le dire, ça demande à être à jour en permanence, hein, finalement, quand on travaille dans ces milieux-là?
Absolument. Les normes et puis la réglementation changent d'année en année, même de mois en mois, parfois, et on est obligé de se mettre à jour au niveau des cours hein, qu'on prodigue. Et puis, généralement, les élèves, ils ont la chance d'être en alternance chez nous. Et ils acquièrent aussi une partie de cette connaissance directement en entreprise, ce qui est un gros avantage pour nous en termes de pédagogie.
Je pense qu'il va falloir redonner ces lettres de noblesse à l'alternance. Jusqu'à aujourd'hui, elle est un peu considérée, ben, quand tu n'es pas très, très malin, tu vas faire une alternance. Non, c'est faux. Ce sont les élèves les plus brillants qui vont directement plonger dans le monde de l'entreprise, se former directement, avoir les dernières réglementations, les dernières avancées techniques, le savoir-faire, qui vont faire vraiment les bons techniciens et ingénieurs de demain. Moi, j'ai eu la chance de prendre un jeune en licence pro et de l'emmener sur une école d'ingénieurs.
Et le tout en alternance.
Le tout en alternance, voilà. Bien sûr. Et ça, c'est la force des entreprises, et ce sera, à mon avis, la force de demain de la jeune génération, qu'elle comprenne que l'alternance, c'est quelque chose d'essentiel.
Vous arrivez, vous, Claire Martins, à mesurer cet avantage, justement, de l'alternance que vient d'évoquer Carole?
Oui, bien sûr, parce que quand je peux comparer avec les autres élèves qui sont en initiale, donc qui n'ont pas de temps en entreprise, ils ont moins d'ouverture sur les différents aspects des métiers et sur les différents sujets sur lesquels on peut travailler. Et du coup, par exemple, dans mon bureau d'études, je suis amenée à travailler sur énormément de dossiers différents, que ce soit de la réhabilitation de châteaux d'eau, à des enquêtes de conformité dans une habitation, à une campagne de mesure en eau potable. Donc je balaye, même si c'est succinctement parce que je dois faire une alternance entre les cours et la période en entreprise, je suis plus consciente et j'ai beaucoup plus d'informations et on me demande plus de travail, ce qui amène à la fin, en fin de compte, une autonomie beaucoup plus rapide et aussi une envie, une curiosité grandissante, ce qui est un grand avantage. Nous avons plus de travail, mais derrière, on a beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus de réussites et une possibilité de compréhension beaucoup plus grande aussi.
C'est tout simplement mettre en adéquation l'apprentissage, j'ai envie de dire, sur la chaise face au tableau. Ça se passe peut-être plus comme ça, hein, mais en tout cas, l'apprentissage théorique, on va dire, avec une réalité professionnelle, faire l'aller-retour entre l'apprentissage, l'expérimentation par le travail, hein, tout simplement, et puis réinterroger aussi la théorie quand, dans la situation de travail, on a été confronté à une situation particulière, j'imagine. Enfin, c'est ça l'objet, j'imagine, de l'alternance, quoi, tout simplement.
Oui, absolument. Oui, et puis même d'expérience, hein, je sais qu'au tout début, l'apprenant apprend, ce qui est tout à fait normal et logique. Et puis à un moment donné, il n'y a plus cette notion d'apprentissage à proprement parler, parce qu'il y a un échange entre les formateurs et puis l'apprenant sur ce que lui ou elle hein, a appris en entreprise, et puis sur la partie théorique qu'ils ont vue à l'école. Et ça, c'est très stimulant, que ce soit pour la partie enseignante ou la partie élève, cette méthode de travail, parce qu'ils ont plus d'expérience et puis plus de retour de vécu en soi-même via son entreprise.
Vous étiez en train de dire que c'est plus intéressant aussi pour l'enseignant. J'imagine Absolument. Qu'on doit être confronté à des retours de situation, même des fois qui doivent, j'imagine, être particulières pour vous aussi, ou sur lequel la réponse est à trouver et pas forcément à énoncer directement.
Ah oui, absolument. Bah, et ça arrive. Hein, au bout de 6 mois d'alternance, généralement, ils me posent une colle. J'ai vu ça en entreprise. Comment ça marche ? C'est stimulant, je trouve que c'est quand même quelque chose qui permet une certaine ouverture à l'apprenant et puis à nous formateurs sur cette partie-là où il y a une interrogation permanente de l'apprenant hein, et du formateur durant tout le cursus de l'école. Et en gros, il y a un certain échange qui est bénéfique aux deux parties.
Ce qui est plutôt stimulant, forcément. Et les métiers de l'eau font partie des métiers bah, qui, aujourd'hui, avancent. Enfin, en tout cas, j'ai cette sensation qu'ils avancent. Alors, par la réglementation, vous veniez de l'évoquer, mais pas aussi par rapport aux questions environnementales que soulevait tout à l'heure Claire également. C'est un métier qui avance, quoi. Enfin, ce sont des métiers, pardon, qui avancent.
Ce sont des métiers qui avancent. Et pour les bureaux d'études, il y a des sujets donc, récurrents, mais il y a aussi de nouveaux sujets et de nouveaux défis. Parce que les problématiques avancent, évoluent, changent, et on est toujours là pour y répondre et être de l'avant.
Je prends pour exemple, là, il y a quelques instants, nous avions les laboratoires Watch Frog qui parlaient de détection de pollution chimique à travers des amphibiens ou des larves de poissons, des alevins. Ça, par exemple, sont des technologies relativement récentes dans la recherche des polluants. J'imagine que ça débouche sur des choses concrètes au niveau des métiers derrière, parce qu'une fois qu'on a la mesure, c'est bien beau, mais il y a sûrement une action qui arrive au bout d'un moment
c'est
derrière la mesure.
C'est un bureau d'études qui prendra en compte ces données pour pouvoir aller sur un dossier complet.
Voilà, et ça, ce sont de nouvelles données qui arrivent, des nouveaux défis à relever, quoi.
Toujours des nouveaux défis.
Nous l'évoquions avant de prendre le micro, puis en début d'échange, vous me disiez, ben voilà, on a du mal, Carole Selmy, hein, vous me disiez, ben, on a du mal des fois à recruter aussi des gens qualifiés dans les métiers de l'eau, parce que ben, finalement, c'est pas plus attractif que ça sur le papier, et finalement, ça en est passionnant quand on s'y penche un peu, quoi.
C'est pas que c'est pas attractif, c'est qu'en fait, les jeunes ne les connaissent pas. Il y a un manque de communication à ce niveau-là. Les jeunes partent à la fac, hein, vont vers les maths parce que les parents les poussent vers les maths, vont les pousser dans des voies qui ont 20 ans, 30 ans. Mais les métiers de l'eau, alors ça devient quelque chose d'essentiel parce que le gouvernement toujours communique sur l'eau maintenant, sauf que ça ne suit pas derrière. Sauf que lorsque l'on fait un salon des métiers pour sensibiliser les gens, on ne fait rien. Donc c'est aussi aux proviseurs de lycées et de collèges de prendre leur part de responsabilité pour préparer demain et d'ouvrir leurs portes toutes grandes aux entreprises et aux écoles d'ingénieurs, aux CFA divers, pour que l'on puisse venir à l'intérieur de ces établissements scolaires et présenter nos métiers. Parce que si on reste sur cet axe où on ne trouve pas de candidats, dans 10 ans, dans 15 ans, lorsque la génération actuelle va gentiment glisser vers la retraite, qu'est-ce qui va se passer ? C'est aujourd'hui qu'il faut que l'on prépare cette relève.
Et sur des métiers, comme nous l'évoquions, assez stimulants quand même. Enfin, quand on discute là, autour de la table là, de l'eau, enfin, y a matière à épanouissement professionnel quand même. Hein. Largement, j'ai l'impression. Enfin, je vois Claire qui me dit oui, qui découvre, qui rentre, pardon, en apprentissage. Enfin, pas qui rentre, qui est en apprentissage. Donc, en début de carrière dans les métiers de l'eau. Et puis je la voyais au Pin du Chef quand on me disait c'est des métiers stimulants, quoi. Voilà, c'est pas, Étienne Leroux nous le disait aussi en parlant de, voilà, de tous les réseaux, voilà, qui a un côté aussi intéressant à ce métier-là et stimulant même. On peut se dire qu'au moment, c'est stimulant comme métier, quoi. Les métiers de l'eau sont stimulants.
Oui, c'est vrai. Alors, pour la partie construction des ouvrages, la difficulté, c'est que c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Les canalisations, tout est enterré.
Quand on a fini la journée, les gens pensent que vous n'avez rien fait, quoi.
Voilà.
Ou ils râlent parce que la route, elle est barrée.
Voilà, c'est ça. Et c'est un peu la difficulté. Quand on parle de construction d'ouvrage, on voit tout de suite un pont, une route, ce que c'est, une ligne TGV. Et c'est vrai que quand on parle d'ouvrage d'assainissement ou d'eau potable, c'est moins évident. Genre, ça parle moins aux étudiants ou les gens qui ne sont pas du métier. Et moi, c'est vrai que ça m'intéresse. Moi, ça me passionne. Effectivement, moi, quand je suis dans une rue, je vois les ouvrages d'eau et d'assainissement à travers les différents affleurants qu'on peut voir sur la route. Et ça, les gens ne le voient pas. Et pourtant, c'est à construire, c'est technique. Les gens, quand ils débarquent sur un chantier d'assainissement ou d'eau potable, ne voient pas l'essentiel, ne voient pas, se disent, oui, bon, finalement, il n'y a rien de sensationnel. Et si, parce que ce n'est pas si simple. Et la preuve en eux, c'est que tout le monde ne réussit pas à les construire correctement, ces réseaux-là.
Et alors, ce qui est drôle, petite anecdote, actuellement, il y a les travaux autour de chez moi. Alors, pour le coup, je ne sais pas si c'est de l'assainissement ou pas, mais en tout cas, c'est en souterrain. Tout ce qui se passe en souterrain d'une ville, dont l'assainissement, mais pas seulement. Il y a le gaz, l'électricité, d'autres choses qui y passent également. Mais c'est passionnant. Et j'ai découvert il y a très peu de temps dans ma rue, parce que les ouvriers sont arrivés pour faire les tracés sur la route, de ce qui se passe en dessous, finalement. Et c'est juste hallucinant que de voir dans sa propre rue. Et c'est assez logique, d'ailleurs, quand on suit les traits, on se dit, bah oui, normal, j'ai bien une évacuation chez moi. Ah bah oui, j'ai bien des entrées et tout, mais on ne se l'imagine pas. Et quand on voit le tracé des ouvriers qui vont sûrement ouvrir la route dans ma rue, hein, c'est certain, quand on voit le tracé au sol, c'est juste hallucinant de voir tout ce qui s'y passe, quoi.
Voilà, oui, parce qu'en plus de l'eau et de l'assainissement, on enfouit aussi tout ce qui est électricité, réseau de communication, le gaz qui est évidemment enfoui. Et l'assainissement, c'est pareil. Avant, la plupart des habitations étaient en assainissement autonome. Aujourd'hui, on passe de plus en plus en collectif, et donc ça rajoute un nouveau réseau en souterrain. Ce qui fait qu'effectivement, il peut y avoir parfois un encombrement. Et quand on ajoute à cela que certains réseaux sont vétustes, qu'il faut les changer. Et donc, il faut poser en parallèle de l'ancien pour ensuite déconnecter l'ancien et poser le nouveau. Et là, effectivement, là, ça amène à un petit peu de réflexion pour savoir comment s'y prendre quand il y a déjà beaucoup de monde et c'est un sujet. À chaque fois, entre la détection, le croisement, etc., des ouvrages, le longement et la continuité de service aussi. Parce qu'aujourd'hui, quand les gens ne peuvent plus se passer ni du réseau d'assainissement, ni collectif, ni du réseau d'eau potable. On ne peut pas se permettre de couper l'eau aux gens plus d'une journée au maximum.
C'est ça. Sur les 6 prochains mois, on a coupé, mais on refait le réseau, vous inquiétez pas, ça marchera pas. Nos villes sont des fourmilières souterraines qu'on ne doute pas. Voilà. Donc, pardon, c'est une petite anecdote, voilà, je voulais signaler parce qu'effectivement, c'est tous ces ouvrages qu'on ne voit pas et qui finalement sont évidents. Vous me faites signe, Carole Selmier, vous avez bien raison, parce qu'on discute, on traîne, on tourne, on vire, on parle des métiers de l'eau. C'est passionnant, effectivement. Dans les orientations, on peut se rapprocher effectivement de ces métiers de l'eau et je pense là, vous évoquiez tout à l'heure les collégiens, les lycéens, ils pourront trouver toute information auprès des orientations. Il existe pas très loin, alors de chez nous parce qu'on est une radio locale, hein, mais du coup notamment au lycée de Chambray, des formations autour de la gestion et de la maîtrise de l'eau. Et puis, il ne faut pas hésiter de se rapprocher de ces métiers. Je vous remercie, Carole Selmier de ICEO. J'ai bien aimé d'ailleurs ce petit nom.
Ingénieur conseil eau et environnement.
Oui, ben moi j'entends autre chose quand j'entends ICEO.
C'est pas faux.
Merci à vous d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci Claire Martins, vous êtes apprentie en BTS gestion et maîtrise de l'eau, d'avoir partagé votre expérience et votre enthousiasme notamment sur la question environnementale. Merci à vous Alphonse Rassolo-Niena, professeur sur ce même BTS, d'avoir partagé vos vos éclairages et vos lumières. Merci à vous également. Je suis en train de relire vos notes, hein, c'est pour ça. Étienne Leroux, qui est professionnel du réseau d'assainissement et d'eau potable, et EHTP. Merci beaucoup tous les quatre d'avoir échangé au micro avec nous.